Donc première question assez simple, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu plus sur le groupe?
Ouais, pas de problème. Donc moi c'est Pierrick, du coup je suis bassiste dans The Routine d'Orchestra.
Florian, chanteur.
Et du coup The Routine d'Orchestra c'est un groupe qui du coup, s'est formé en 2011, premier album en 2013, et là du coup ben, on est sur le deuxième album en 2017. Donc il y a eu pas mal de changements de line-up, mais après sinon là, le line-up actuel du coup, donc moi Pierrick à la basse, Flo au chant, il y a Jean-Baptiste à la guitare, Cédric à la batterie et Kevin à la deuxième guitare.
D'accord, il y a une histoire particulière derrière le choix du nom qui est pas très, enfin, qui peut être assez surprenant.
Ouais, il y a une histoire, ouais. En fait il se trouve que Cédric et Jean-Baptiste quand ils ont fondé le groupe, ils cherchaient un nom de groupe et ils étaient à fond sur la BD The Walking Dead. Et la grand-mère de Jean-Baptiste, à chaque fois qu'elle demandait des nouvelles niveau musique en fait à Jean-Baptiste, elle lui posait la question alors avec ton orchestre, est-ce que ça va bien? Et du coup, orchestre.
D'accord, ok. Ok, pourquoi ça peut. C'est parfois les explications les plus simples.
Ouais, c'est ça.
Le jeu des étiquettes c'est toujours compliqué. Est-ce que comment vous définiriez votre style ou votre démarche musicale? Alors soit avec des étiquettes qui valent ce qu'ils valent, ou plutôt par les influences ou par les groupes qui je dirais trouvent grâce auprès de tous les membres du groupe.
En termes d'influence, alors déjà au niveau du style serait, alors pour cet album ce serait plus dans le death metal on va dire. Sur l'ancien album c'était plus la vague un peu deathcore, donc voilà, bon, on arrive entre le deathcore et death metal, j'ai envie de dire, et avec les influences, on se retrouve au final web. Dans ça, il y a Dying Fetus,
Cannibal Corpse,
Artist Murder, pour des trucs un peu plus.
Puis après, on se retrouve tous sur des groupes autour de. Qu'on a tous écouté, quoi. Donc, que ce soit autant Sepultura, enfin les premiers Sepultura, ou les premiers Metallica, ou les premiers Slayer aussi.
Quand les grands classiques.
Forcément, ça ressort. Hein. Donc, on a été bercé avec ça quand on a commencé la musique. On a tous commencé à jouer nos premiers riffs sur ce style, quoi. Enfin, sur ces groupes.
Et on oublie un groupe à chaque fois, son interview. Très important, mais c'est parce qu'il a changé de style. C'est pour ça qu'on en parle plus. C'est Suicide Silence.
C'est vrai.
C'était une grosse influence pour Walking Dead au début.
Ouais. C'est vrai, quoi. Sur le premier album, tu avais une teinte un peu plus des scores. C'est vrai que Suicide
il y avait beaucoup de.
C'est vrai que ça a été des pionniers là-dedans.
Un esprit comme ça.
Dans ce style.
Donc globalement, on se retrouve avec ce genre de musique-là.
Et donc l'évolution que vous annoncez vous-même sur un son peut-être un peu moins deathcore, plus dans les racines entre guillemets du genre, c'est une évolution naturelle. Ça a été une volonté. Vous en avez parlé entre vous. C'est les riffs qui sont sortis qui ont.
C'est tout en même temps.
C'est vrai que
ça s'est fait naturellement finalement.
En fait, on n'a pas parlé de vif quand on s'est dit on va faire le deuxième album. En fait, c'est venu vraiment naturellement quoi. Mais en même temps, il y a peut-être eu aussi cette euphorie de se retrouver tous ensemble. Et puis du fait aussi qu'on s'entend vraiment très très bien dans le groupe, on est vraiment très proches et du coup forcément ça s'est fait naturellement. Et puis aussi il y a eu une progression, une maturité dans la composition de la part de Cédric et Jean-Baptiste, parce que c'est eux qui composent, nous on est juste là à donner notre avis et à faire les arrangements, mais aussi à faire évoluer le projet bien entendu. Donc il y a eu une part d'évolution dans la maturité quoi. Donc forcément en fait on a fait quelque chose de plus sincère qui nous ressemble plus sur cet album, quelque chose de vraiment plus profond on va dire.
Sauf erreur de ma part, en 2016 justement il y a eu deux changements dans le line-up.
Alors il y a eu moi janvier 2016, c'était ça.
En 2015-2016.
Donc moi je suis là vraiment je suis arrivé pour le deuxième album.
Quand t'es arrivé, à quel niveau, enfin jusqu'à quel niveau était composé l'album, produit, enfin voilà.
Justement, il y avait, eux aussi, ils avaient des compos des pré-prod, tout plein d'instrus qu'ils avaient fait comme ça. Et quand je suis arrivé, ils étaient contents, ils avaient un chanteur, et donc là, ils m'ont mis un peu à faire des trucs sur les sons, et on a commencé à enregistrer.
D'accord, t'as dit, voilà ce qu'on a comme squelette, voilà ce que tu me fais là-dessus, quoi.
En gros, c'est ça, voilà. Alors, ils m'ont bien managé, donc c'est Cédric et JB, ils sont à l'origine.
Pas de stress, c'est bien, c'est cool.
Non, c'est bien, ouais. C'est vrai que moi, donc quand on est frais dans un projet, faut découvrir tout le truc et tout. Après, je les connaissais depuis un moment, mais c'est vrai que là, il y a tout un truc et tout. Ils m'ont dit, on fait du son comme ça, on a composé ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, on va faire ça. Je fais, moi, je veux faire ça. Donc, voilà. Mais on a que, ouais, moi je suis pile là depuis le début du deuxième album, quoi.
D'accord. Okay. Donc que tu vas d'une façon ou d'une autre, t'as quand même comme tu disais, vous avez deux compositeurs attitrés, et ensuite vous greffez dessus. Vous arrivez quand même à chacun apporter vos petites pattes.
Ouais, complètement. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que on a un peu, on s'entend très bien, donc forcément, nous, on respecte en fait le fait que la composition vienne que de Cédric et JB, parce que nous, en fait, on apporte aussi d'autres choses dans le groupe, qui même pas forcément sur le côté musical, sur la structuration, sur le management du groupe, on apporte aussi. Donc, du coup, on a tous notre rôle, on le respecte, chacun respecte son rôle, et bah forcément, on a quand même d'autres mots à dire parce qu'on va jouer les parties, et c'est ça qui est bien, et du coup de la part de Jean-Baptiste et Cédric, c'est que bah du coup ils autorisent aussi la critique, et elle est ouverte, et s'il y a un problème quoi que ce soit, on en discute, et si on va dire qu'on a des remarques qui servent à faire avancer le groupe, en fait, bah du coup c'est pris en compte.
D'accord. Donc là, donc il y a eu quand même 4 ans depuis Architects of Destruction.
Ouais.
Ce qui peut paraître long dans le business actuel.
C'est très long.
Ça s'explique comment, le temps pour un groupe qui se finance comme il peut, les changements de line-up n'ont pas dû aider, etc. Mmh. C'est tous ces petits éléments-là, les uns sur les autres, qui font 4 ans.
C'est ça, et plus les dates surtout. Plus les dates de concert, parce que ouais, certes, bah, oui, on a mis 4 ans, mais il y a eu quand même pas mal de dates de concert.
Le premier album a pas mal été tourné. Ils ont fait pas mal de tournées avant, enfin je dis « ils » parce qu'on n'était pas dedans.
Ouais, mais bon,
donc voilà, il y a eu beaucoup de concerts, tout ça, et donc se concentrer là-dessus, chaque fois « ouais, on est booké là, machin ». C'est vrai qu'après, on a tous une vie aussi, et malheureusement, bon, bah, on se concentre sur les lives et la compo, ça va très lentement à côté, quoi. Il a fallu, ouais, à un moment donné,
stopper un peu les concerts
et se concentrer essentiellement sur les chansons. Donc ouais, il y a une grosse...
On a eu la chance, en fait, d'avoir de la demande, en fait, quoi. Une réelle demande. Donc en fait, c'est vrai que c'est un mal pour un bien, c'est vrai que ça met du temps, c'est vrai comme tu disais, là maintenant dans le milieu actuel, 4 ans c'est long. Et du coup, bah forcément, mais c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'on a joué quoi. Il y a eu le groupe, c'est exporté en Europe, un peu partout en France, donc le nom a circulé et ça a servi à quelque chose.
On peut espérer, s'il y a une stabilité du line-up, que ça aille un peu plus vite pour la suite.
Ouais, on espère, mais il n'y a pas de raison, de toute façon maintenant je pense que... Ça, normalement, ça devrait tout rouler, quoi.
C'est vrai que ça a pris un moment, ça, ce changement d'année, parce qu'il y a eu moi, mais après, il y a eu aussi le retour donc, de notre premier guitariste du groupe, en fait, qui est parti à un moment donné, fin 2013, et il est revenu là, voilà. Et après, on a pris Pierrick aussi, à la base. Donc, il y a eu tout ça. Et effectivement, maintenant, oui, c'est censé aller plus vite, ouais.
Bah, là, on a trouvé un équilibre, en fait.
Et donc, vous, entre guillemets, et arrivé plus tard, pas de difficulté de votre point de vue, et en particulier du chant, mais aussi sur le violon, là-bas, sur s'approprier les titres de Architects. En plus, t'as un autre,
du premier album.
Ouais, t'as un autre chanteur, donc tu le réinterprètes, mais en même temps toi.
Ouais.
Bon, en plus, c'est du chant extrême, ouais. Mais il y a ta personnalité, il y a un timbre de voix qui est différent.
Totalement, ouais. Ah ouais, ah bah moi je me suis fait kiffer, entre guillemets, hein, parce que j'ai toujours suivi le groupe, parce qu'on est, bah, ils sont de Grenoble, moi je suis là, je suis allé à tous les concerts, enfin moi j'ai un autre groupe aussi à côté, donc j'ai tourné un peu avec Walking Dead quand j'étais pas chanteur, et j'admirais, je fais ouais, ces sons là, je ferais bien des covers, des trucs, et finalement bah, quand j'ai pu être chanteur, ouais, moi ça me plaît totalement de réinterpréter les morceaux comme ils ont été faits, mais j'essaie quand même de respecter ce qui a été fait. Par contre, ça, j'y tiens, je respecte bien ce qui a été fait. Après, moi, je mets ma patte à moi. Donc voilà, non, là-dessus, ouais, ça m'a toujours. Ça m'a plu, ça, par contre.
D'accord. Et toi, au niveau basse
À la basse, bah après, c'est pas aussi personnel que le chant, je dirais, parce que c'est vrai que le chant, c'est très intime. Mais à la basse, non, j'ai pas eu de problème pour interpréter les morceaux, de les assimiler.
T'as modifié des petites choses ou
je sais pas, j'ai rajouté 2-3 choses, ouais. J'ai autant.
Slide, par exemple.
Ouais, bah après, il y a la façon de jouer, il y a le groove.
T'as une technique différente, là, tu peux dire, tiens, bah là, ça me paraît plus
complètement différente, ouais. Si je prends par exemple l'exemple de Eduardo, qui était le tout premier bassiste, qui est en Équateur maintenant, et que je salue, qui était extrêmement technique. Moi, je suis pas technique à ce point-là, et puis en plus, c'est pas mon dada, en fait. Moi, je préfère faire les choses très simples, mais très carrées, très rentre dedans, et c'est efficace. Mais j'aime bien quand ça groove et tout, donc forcément, je suis à la basse. Mais non, j'ai pas eu de soucis, je rajoute mes petites touches dans l'interprétation, dans la façon d'amener, moi je dis ça, dans la façon de groover, en fait, dans la façon d'amener les morceaux.
Tu joues au Mediator ou...
Je joue au Mediator, principalement au Mediator.
Ok. Bon, ça, je vais pas vous la poser parce que c'était architecte. Au niveau business, donc architecte, c'était sorti chez Clonosphère.
Ouais.
Là, vous, enfin, du point de vue de l'extérieur, vous passez un gros step en passant chez Unique Leader Records,
ouais,
qui est un gros label américain, qui est très spécialisé, qui a une aura peut-être un peu underground par rapport, je sais pas, à Nuclear Blast ou autre, mais les connaisseurs suivant un peu leur catalogue pour voir que c'est assez pointu. Comment s'est fait un peu le deal? C'est vous qui vous approchez, c'est vous qui avez arrosé large.
C'est... Alors ça a été un peu les deux. C'est-à-dire que c'est le label qui avait approché le groupe il y a un petit moment en fait pour dire qu'ils étaient intéressés. Et quand on a produit le deuxième album, quand on a fait le deuxième album, en fait on cherchait un label. Forcément on leur a envoyé un mail. Et en fait ils nous ont dit bah les gars, moi je vous attends, il n'y a aucun problème, je veux bien vous prendre. En fait du coup on a signé un contrat chez eux.
Et ils vous ont pris en disant envoyez-moi l'album final et genre j'écoute et on en discute ou
non? Ah bon. Avant. En fait, on était en phase de production, on n'avait même pas fini les
productions. Ils ont écouté quelque chose ou même pas?
Rien.
Rien.
Ils ont rien écouté.
Belle marque de confiance.
Ouais, complètement. En fait, ils nous ont fait totalement confiance. Nous, d'ailleurs, c'était un peu surprenant, on n'avait pas du tout l'habitude. Et on était en pleine phase, on n'était même pas fini la pré-prod de l'album.
Vous n'avez pas passé en métasymphonique, c'est sûr.
Mais ouais, complètement. Et je pense que c'est un label aussi qui essaie d'élargir un peu ses horizons. Du coup ouais, on a signé directement chez eux sans problème en fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus de ça on a un contrat de production, donc c'est très rare maintenant.
C'est eux qui financent financer l'enregistrement.
Alors ouais, ils le financent, c'est un contrat.
Parce qu'il y a beaucoup de labels maintenant effectivement, si on fournit le produit final et ils distribuent ou ils, enfin voilà, ils mettent.
Bah en fait là du coup ouais, il y a les deux, en fait, autant de la distribution et de la production. Donc après bah ouais, on a vu avec eux comment ça pouvait se passer. C'est vrai que maintenant c'est très compliqué.
C'est-à-dire qu'ils vous laissent la liberté des lieux, des gens à qui bosser, mais vous avez un budget, quoi.
Ouais, c'est ça.
Top, d'accord. Okay. Donc, depuis que c'est l'album sorti, je crois, 5 ou 6 semaines maintenant, justement, par rapport au passé, vous voyez une différence? Vous voyez des. Je sais pas, le fait d'être signé chez eux, je sais pas, vous avez plus de retours de.
Je sais pas, justement. Ça apporte une grosse crédibilité, quoi. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, Unique Leader, c'est quand même un label qui est reconnu. Après, ils ont une aura très underground, comme tu le disais, c'est pas comme Nuclear Blast, quoi. Mais effectivement, ça apporte une réelle crédibilité. Ça, on a pu le voir. À l'heure actuelle, là, en plus de ça, l'album a l'air d'être plutôt bien reçu par la critique, même par le public. On attend de voir après, dans un petit peu de temps.
C'est la première fois que vous allez distribuer Maguilo?
Ouais.
D'accord. Donc ça permet de toucher un public plus large potentiellement.
Complètement.
D'accord.
Non, c'est vrai qu'on touche un peu du doigt le côté mondial en fait, à voir un peu comment ça peut se passer, en regardant un peu parce que c'est très compliqué aussi, quoi.
D'accord. Super. Plus sur la phase de création de l'album, en général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur donc, les sessions d'enregistrement de Resurrect et. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, vous venant un peu, enfin étant débarqué plus récemment, c'est des choses qui vous ont surpris? Alors, en général, les sessions
Les sessions, elles ont été en huis clos. ça a été ouais, vraiment en huis clos. Quoi. On a tout fait nous-mêmes.
Ah, sur combien de temps
Combien de temps entre. Sans parler de la compo, juste l'enregistrement, on a dû mettre 5-6 mois.
6 mois, ouais, j'ai
5-6 mois.
Par franche, quand vous pouviez, quoi.
Ouais. En fait, ouais, on a tout fait nous-mêmes. On avait ce choix-là, cette liberté.
On a fait des choses aussi en parallèle, parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai enregistré le chant tout seul. En fait, je me suis occupé de ça comme ça évitait de.
Chez toi, enfin, dans ton propre.
Ouais. Okay. Moi, j'ai le matériel.
T'es arrivé avec les tracks.
Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai le projet. Et, ouais, j'ai tout fait tranquillement. Je me suis enregistré tranquillement. En fait, t'as peut-être reposé. Faut quand même s'exciter un peu, mais.
Pour comme les voisins, aussi.
Mais en gros, voilà, ouais, j'ai tout fait, en tout cas moi de mon côté. Après, ouais, en amont, par contre, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, les guitares.
Les guitares, il y a eu la basse, quoi, la batterie, ça a été tout fait en fait.
Session rythmique d'abord, et après, les guitares et en parler le chant ou quand,
Bah, moi, de toute façon, ouais, c'était à la fin. Le chant, à la fin.
En fait, il y avait toutes les sections en fait d'enregistrer, on a tout fait, ouais, ouais. C'est comme tu le disais, section rythmique. Et après, on a eu la section guitare basse, quoi. Et après, bah, du coup, le chant.
Ouais, mais ça,
Mais oui, on a tout fait chez nous, quoi.
C'est un stress de moins, c'est une facilité. Dire, on a 5 jours en studio et il faut qu'on fasse tout en 5 jours.
C'est exactement ça.
C'est exactement pour ça qu'on a voulu faire ça chez nous, en fait.
Ça permet de gérer tout soi-même sans prise de tête, entre guillemets, parce que la deadline, on se la fixe nous. Comme on dit, on peut toujours la repousser. Mais,
le label, vous n'avez pas dit je veux l'album telle date ?
Non.
Non, il n'y a pas eu ça.
Il n'y a pas eu ça, mais il y avait quand même certaines deadlines, en fait, parce que nous, on était conscients aussi qu'il fallait quand même s'en mettre déjà pour nous, pour qu'on puisse arriver à une certaine période, pour après agencer.
Ils avaient dû dire, ils ont des cycles, quoi.
Ils ont des cycles, quoi. Et puis en plus de ça, ils ont des cycles qui ne sont pas du tout les mêmes en Europe.
Oui.
Donc, du coup, on ne comprenait pas trop, mais nous, on s'était vachement bridé pour dire, voilà, il faudrait que ça se termine maintenant, quoi.
D'accord.
Donc, ça a été intense. Hein. La production a été très intense et beaucoup de pression.
Et maintenant, entre guillemets, avec, alors là aussi, c'est une question de non professionnel, mais donc avec le matériel qui existe, on peut enregistrer entre guillemets chez soi et, ouais. Et après faire le montage final et ça passe.
Enregistrer, ça se fait facilement. Par contre, mixer et masteriser, ça.
C'est là où ça y est encore la différence.
Parce que moi, je sais rien faire. Je dis officiellement, j'ai enregistré, j'ai le matos. Après, je fais d'autres choses. Je vais enregistrer d'autres trucs à côté. Mais par contre, pour tout ce qui est.
Il faut des tracks, mais après, il faut que ça soit intégré.
Ouais. Effectivement, donc on a Jean-Baptiste, donc compositeur de l'album, Thierry. Lui, il a des grosses compétences en.
C'est un bon geek, quand même.
Mixage, masteriser.
Il a passé gamin,
du temps sur son ordi, et c'est vrai que il s'est occupé lui-même de tout. Donc finalement, il a récupéré toutes les pistes. Et il fait le mixage, donc c'est toute la prod faite homemade.
D'accord, et vous avez un souvenir d'une première écoute du truc mixé ?
Ouais.
Ah oui.
Ouais. À la résidence.
C'est le
ciel. Ouais, c'est ça, à la résidence. Ouais. On était en résidence en fait, et du coup Jean-Baptiste s'est pointé avec l'album fini. Et il nous fait, il nous chope, il nous fait, bon, asseyez-vous. Et c'était quoi, c'était l'ordi, je sais pas ce qu'on avait amené. Et du coup, on met ça, on plug ça, et puis on écoute. Et Jean-Baptiste s'était éloigné, s'était isolé, parce que lui, il l'avait écouté pendant des heures, forcément.
Ah oui, il en a fait.
Et du coup, nous, on était assis, on écoutait, on se regardait pas. Et puis lui, il était au fond, je le voyais, il faisait les 100 pas, quoi. Et il avait un peu les larmes aux yeux. Il était content d'avoir accouché du bébé. Et en fait, quand ça s'est terminé, on a fait « C'est bon. c'est bon, c'est super, c'est vrai pour ça. »
C'est vrai qu'à ce moment-là, on avait franchi un cap. Quelque chose, le truc était là.
Le bébé était là, quoi. Ah, on fait plus qu'à.
Parce que finalement, on travaillait tous avec des petits morceaux, mais on se dit finalement, en mélangeant tout, ça va, qu'est-ce que ça va donner, quoi.
Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on a passé énormément de sessions. Moi, je me rappelle avoir passé énormément de temps à écouter les différents mixages, les différents masterings qu'on avait fait, les tests qu'on avait fait. Et à chaque fois, tu fais « Ah putain, je suis pas content, là ça me va pas, ça me va pas, le petit détail qui fait chier. » Mais au final, après, on a fait « Attends, on va laisser décanter un peu les oreilles, on va laisser reposer tout ça, et après on va s'y remettre. » Et là, après, au bout d'un moment, on a fait « Ouais, c'est bon, on stoppe, ça sert à rien de creuser plus loin, parce que t'arrives au bout de ce que tu peux entendre. » Et du coup, là, on a fait « C'est bon, là, c'est bien. »
Et là, après, X mois ou semaines après, vous n'êtes pas en train de le réécouter, vous dire on aurait pu faire ci, faire ça, vous n'êtes pas en.
Toujours,
hein, toujours. Mais ça, c'est une horreur, ça.
Pas moi, je suis content. Moi
aussi, je suis content. Non, j'en suis super content, mais parfois je me dis.
Jean-Baptiste, parce que c'est vrai qu'en tant que compositeur et puis en tant que personne qui a fait le son, qui a tout fait de A à Z.
Il arrive pas à se
dégager. Non, mais il est vraiment perfectionniste, c'est le mot. Il est faible, quoi. Lui, il est.
D'accord. Donc, pour en arriver là, il a déjà passé un temps de malade
dessus, quoi. Mais c'est pour ça, en fait, que parfois ses avis diffèrent, parce que forcément, vu qu'il a la tête dans le guidon, il est un peu perturbé parfois. Il fait ah putain, j'aimerais bien revenir là-dessus. Non, arrête.
Oui, ça, il y a un moment, il faut quelqu'un te dire, lui ou quelqu'un te dise.
Encore, il y a eu un délai, on a pris du temps encore pour qu'il fasse des arrangements, des trucs, il en avait encore pris du temps. D'ailleurs, c'est l'avantage qu'on a pu avoir. Mais à un moment donné, il faut terminer.
Ouais, bien sûr. Juste au niveau de toi, justement, au niveau de ta voix, comment tu gères ton chant sur des sessions? Comment tu t'avances pour éviter de te démonter la voix? Quelle est une gestion particulière
sur les sessions d'enregistrement?
Ouais.
Alors,
Et après l'aspect live?
Ouais, et après l'aspect live, c'est une très bonne question. En enregistrement, alors moi je fais beaucoup par. En fait, je me faisais des après-midi, 4 heures. Je prenais vraiment mon temps, je faisais par exemple un titre une après-midi. Après, je stoppais et je laissais même 2-3 jours. Et je m'en faisais les jours d'après pour bien me reposer. C'est vrai que c'est hyper physique comme type de voix. Moi, je force vraiment.
Et t'as besoin de chauffer, t'as besoin de.
Ouais, en plus, faut que je m'échauffe et tout. L'hydratation, tout ça comme ça. Et vu que je savais que c'était l'enjeu était là, quand même, je savais que c'était un gros truc et tout, j'avais envie de faire ça bien. Donc, j'ai pas fait en mode session d'enregistrement, genre 10 jours d'affilée. J'ai vraiment pris mon temps. j'ai fait ça comme ça, et je revenais des fois sur des titres et tout. Je reposais des phases.
Vous avez pu proposer sur un même titre deux, trois approches un peu différentes, de plusieurs tracks. Tiens, je joue plus comme ça. Là, je...
Ah oui, ouais. Il y a eu un peu ça, ouais. En plus, ça dépendait des jours finalement. Parce que des fois, j'étais un peu plus chaud. Je fais, bon, là, je vais faire comme ça. Il y a des titres, ça se ressemble. C'est vraiment minime. Mais il y en a où j'ai voulu. Après, ça dépend des mots qui sont placés. La brutalité que je peux mettre dedans, ça dépend des paroles, de comment je le sors, le timbre de voix. Donc après, ouais, j'ai trois types de voix en tout.
Et en niveau live, en préparation d'un concert.
Et en live, ouais, c'est bien, c'est très important aussi, ouais, d'ailleurs, comme les autres aussi. Moi, je passe un moment tout seul à me chauffer la voix tranquillement. Je suis là, je bois, je m'échauffe physiquement aussi, pas que la voix, tout. Et pour être sûr d'assurer, je peux pas débarquer comme ça et gueuler.
C'est intéressant de le dire, parce que parfois on a l'impression que le mec il arrive, il hurle et puis merci à voir.
Déjà, j'aurais pas une voix si efficace que ça, bon, les gens le verront pas, je sais pas, ils vont dire oui, gueule, ça passe. Moi je sais très bien que ma voix sera pas la même si je m'échauffe pendant une demi-heure que si je m'échauffe pas, quoi. Et en plus je vais m'abîmer la voix au cours du concert.
Là c'est une réelle technique, une réelle technique, ça s'apprend sur du long terme.
Et ça, ouais, du très long terme. Parce que,
et vous t'as déjà eu l'occasion d'enchaîner sur, je sais pas, 3 jours, 3 concerts.
Ouais, j'ai déjà fait des tours.
Et tu peux, t'as besoin d'une hygiène de vie particulière,
ça dépend.
Tu bois pas, tu fumes pas, tu sais pas quoi.
Moi je suis fumeur occasionnel, donc ça va, mais bon, la clope c'est pas non plus, voilà. Après je suis pas le mec qui va s'éclater la tête avec de l'alcool, ou j'aime bien faire la fête, mais voilà, il y a des limites, faut quand même assurer les concerts derrière. Et non par exemple, j'ai déjà fait 2 semaines de tournée, ça s'est bien passé. Après, ouais, on sent un peu la fatigue, mais voilà. Okay. Psychologiquement aussi ça compte, il y a tout.
Super. La pochette est franchement réussie, donc j'ai vu qu'elle est signée Rémi de Headsplit Design. Comment vous avez bossé avec lui? Vous voulez donner un descriptif extrêmement précis de ce que vous voulez voir, il fait une proposition, ça discute, ou vous laissez la musique, il vous fait une proposition, comment ça s'est passé?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous on lui décrit un peu ce qu'on veut, ce qu'on recherche, il commence à bosser, il nous renvoie les esquisses.
J'ai bien voulu voir le brief, le début de
la pochette. Mais en plus il est un peu dans ce délire là, donc c'était plutôt facile, et puis son travail est extraordinaire quand même. Et il nous envoie des esquisses, on échange, ainsi de suite, quoi. Et puis jusqu'à qu'on arrive à un résultat, il en fait. C'est ça. c'est ce qu'on veut.
De mémoire aussi, entre le premier, il y a eu une évolution au niveau du logo, un peu changé.
Ouais.
C'est lui aussi?
Non, le logo c'est Cédric. Ouais.
D'accord, c'est lui qui est, ouais. D'accord. Et donc il vous fait des visuels complémentaires pour des pochettes, des machins, des t-shirts, des...
On lui a déjà demandé, ouais, des visuels complémentaires pour des t-shirts, même à d'autres graphistes. Après, nous, on en fait aussi de notre côté, Cédric notamment. Dès qu'on a une idée, on n'hésite pas à l'écrire ou à la mettre de côté pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. On l'envoie tout de suite, on demande tout de suite à des graphistes, on fait des devis. On est toujours en recherche, en fait, d'images un peu sympas pour étoffer un peu l'univers de Walking Dead Orchestra, quoi.
D'accord. Autre élément, vous avez récemment mis à disposition, pardon, sur les réseaux sociaux le clip pour Resurrect the Scourge.
Ouais.
Comment ça s'est passé, et est-ce que c'est plutôt un plaisir ou une galère, parce qu'on fait 550 fois le même machin, mais... C'est un outil utile maintenant, mais voilà, la réalisation, c'est... Vous en revenez avec un bon souvenir ou plus aussi le...
Un très bon souvenir. Ah ouais, très très bon souvenir.
Parce qu'en plus, c'est un clip qui est scénarisé, on voit le groupe, mais bon, il y a des trucs qui se passent en parallèle.
Ça a été un très très bon souvenir. La conception a été très longue aussi, parce que du coup, on a dû travailler sur du long terme. En fait, on avait imaginé à faire un clip, du coup scénarisé, mais un truc qui ait de la gueule, qui soit pas mal fait, parce qu'on voit beaucoup de clips scénarisés où c'est pas super bien fait. Et on avait un peu peur de ça, et du coup on s'est penché sur la question, et là on s'est dit bon bah pourquoi pas essayer de refaire le décor qu'il y a sur la pochette d'album, donc un laboratoire. Et on a contacté Yvan Cagne, réalisateur de Normandie, et la compagnie Arcanum qui est basée à Grenoble, qui eux font beaucoup de conception de décors dans le théâtre, mais à moindre coût. C'est-à-dire que c'est que de la... C'est bouffé avec de la matière première qu'on récupère à droite à gauche et on confectionne tout ça.
Là-dessus, vous avez un support de votre label ou pas du tout?
Pas du tout.
D'accord, donc ça c'est le groupe.
Ouais. On a tenu quand même un maximum à faire les choses par nous-mêmes, même financièrement parlant, pour essayer d'être le moins à crédit. Sur le label, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, on a tourné sur... Donc il y a eu une conception de 4 mois pour le décor.
Ah oui.
Donc tous les jours.
Physiquement, ça t'est passé où à Grenoble ?
Non, à Margès, c'est un petit village à côté de Romans-sur-Isère.
D'accord.
Je sais pas si tu vois où c'est, Valence.
D'accord, ok.
Bah, c'est à côté, c'est à une heure, à peu près une heure de Valence. Et c'est un petit village, et on a fait ça chez un ami à nous qui nous l'a loué, qui nous a prêté gentiment sa mezzanine abandonnée. Et du coup, on a tout pété, on a tout refait, et on a bossé pendant 4 mois non-stop à construire ce décor. Et après, on a tourné pendant 4 jours.
Et c'était très, très, très physique.
Ah ouais, c'était du.
C'est physique.
9h du matin.
C'est physique parce que à refaire les prises.
Ouais, parce qu'on a fait des prises où on était acteurs en fait. Bah oui.
Il faisait froid.
On est
c'était en plein mois de mars.
Pratiquement tout nu en tant qu'acteur. On a dû faire ces plans-là. On a un réalisateur qui était très 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 perfectionniste. Il était là, on refaisait. On a eu les plans en groupe aussi, en musique. Et voilà, on s'est fait. Il y a eu donc la compagnie Arcane aussi, ils sont bien occupés de nous. Mise en scène, maquillage, tous les trucs, propositions de.
C'est ça. Puis surtout que c'est du intense, parce qu'on fait du 8h du matin, 22h, minuit, 4h. Hein, on n'a pas beaucoup dormi quoi. Et puis en plus, il faisait froid, c'était une horreur. Enfin, ouais. Mais à côté de ça, en fait, c'était tellement un plaisir quoi. Quand tu te retrouves dans un décor comme ça, type un peu cinéma.
Ouais, puis le résultat est là quoi.
Bah voilà, en fait, c'est ça. En fait, c'est qu'on savait en voyant le décor, quand on a fini le décor, on a terminé le décor, on a vu le truc, on a fait. Ouais, ça va quand même être super beau. Donc ça vaut le coup quoi. Donc puis on avait envie d'imager un peu cet artwork de l'album.
D'accord. Je crois que j'ai encore une dernière question. Finalement, quelle est votre vision de la scène métal française et en particulier vue de Ronald Pauvert?
Ah, je te laisse donner ton avis.
La vision du métal français, finalement ça va en fait, parce que pour parler de Gojira par exemple, qui arrive à être totalement une référence internationale.
Il y a des groupes qui enfin émergent.
Il y a ce groupe-là, c'est vrai, il apparaît sur des médias, tout ça, ça intéresse même le grand public. Moi je trouve que voilà, la scène française, si elle peut se relever comme ça, après il y a Betraying the Martyrs aussi.
C'est
un groupe que je côtoie bien. United, voilà, Atlantis Chronicles.
Sur une frange un peu plus extrême, ça a l'air pas mal bougé.
Ouais, bah en fait, on a la chance quand même en France d'avoir de bons groupes, quoi, faut le dire, quoi. On a quand même une belle scène, il y a de bons groupes, il y a un vrai public. Malheureusement, dans notre pays, on n'est pas aidé par rapport aux médias, quoi. Et c'est des personnes autant passionnées comme nous, ou comme toi, qui fait comme l'interview là tout de suite, qui font avancer les choses. Et surtout, le public aussi se donne la peine de se déplacer. C'est quand même un public qui est fidèle, c'est-à-dire qui est prêt à acheter autant du merchandising que des places de concert, avec les moyens forcément qui est à côté. Mais je pense que c'est aussi un style qui doit. Après, c'est mon avis c'est très personnel ce que je veux dire, mais moi j'ai un avis très, très ouvert par rapport à ça, c'est-à-dire que j'aime bien me dire que c'est pas parce qu'on fait du métal qu'on doit être tout de suite sectaire. C'est-à-dire qu'on doit se fermer, qu'on doit tout de suite dire non, mais le métal il faut pas que ça soit ouvert, parce qu'il y a beaucoup de métal qui font ça, je prends notamment les grosses polémiques qu'il y a avec le Hellfest chaque année, ouais, mais c'est un parc d'attractions, ouais, mais c'est ci, c'est ça. C'est une musique comme une autre, t'as le droit de t'amuser, t'as le droit d'écouter, de pas aimer, t'as le droit d'aimer mais de pas te déplacer en festival comme tu y vas. Tu fais ce que tu veux quoi, et en plus il y a différents styles et c'est en plus un milieu qui est très sincère je trouve, très amical, c'est socialement parlant, c'est du bonheur quoi. Et il faut en profiter et c'est vrai que malheureusement en France on n'est pas aidé par les médias alors que ça mérite énormément quoi.
Donc, et j'ai toujours demandé, est-ce que localement la proximité avec la frontière suisse ça aide ou ça aide pas?
Si ça va, ouais.
Donc, on a des positions pour la Suisse généralement.
C'est des très bons groupes suisses, finalement on arrive à des fois faire des échanges de dates ou autre. La Suisse est très intéressant, ouais, ils ont
puis Ronald c'est quand même un gros vivier de musiciens de ouf.
On a quand même du groupe. Après c'est vrai qu'en termes de notoriété, après ouais, la scène. Allez, on n'a pas une scène énorme quoi. Enfin, en termes de notoriété, je parle.
Ouais,
on a toujours des groupes qui sont là un peu plus haut que les autres et tout, c'est bien.
On
mais
pas,
c'est
on n'est pas fait métal.
On n'a pas genre de groupe. Ouais.
Mais on fait avec. Hein.
On fait avec. Et peut-être que les choses évolueront. Je veux dire, on voit bien maintenant que moi, je trouve que grâce à des groupes comme par exemple Gojira, il y a certaines mentalités qui ont peut-être évolué et qui commencent à évoluer. Moi, je veux dire, là, on sort d'une tournée avec des smacks en Rhône-Alpes. Jamais on a vu ça avant pour l'instant, où t'as 4 smacks qui se disent on va prendre 4 groupes de métal et on va les faire tourner. Je veux dire, on a joué au printemps de Bourges en 2017, jamais on aurait pu faire du death metal. Peut-être qu'il y a une réelle prise de conscience, financière, parce que c'est financier, hein, la question elle est vraiment dans les finances, hein, pour les festivals, parce que forcément, et les directeurs de salle regardent, hein, d'abord les budgets, forcément, c'est normal, faut vivre. Mais en l'occurrence, voilà, moi je pense qu'il peut se passer des choses. Gojira en est un bel exemple, ça reste un groupe que tout le monde a vu il y a 12 ans dans des MJC et qui maintenant tourne avec Metallica et sont une référence mondiale. Donc ça veut bien dire que c'est possible.
D'accord. Juste une dernière question, quel est pour vous le, à ce jour, enfin on est le 23 novembre je crois, votre album de l'année 2017?
Moi j'en ai un que j'adore, que j'ai découvert. Bon, en même temps en ce moment je geek tout trop à rechercher des petites perles artistiques, j'ai plus trop le temps, mais il y a un groupe que j'ai découvert en même temps, c'est les deux grands patrons du milieu, c'est Dead Cross. J'ai adoré leur album là, leur projet du coup avec Mike Patton et Lombardo là. Et j'ai adoré cet album là pour l'instant. Alors j'attends de voir avant la fin de l'année s'il y a d'autres trucs qui sortent, j'ai pas encore gratté à droite à gauche comme je dis, mais pour l'instant je sais que je suis sur Dead Cross. Je suis à fond dessus. Ouais.
Okay. En métal.
Ou pas, hein, t'as envie de me dire le nouveau et tout.
Non, je vais pas dire. non, ouais, si, BTM, ils ont sorti un bon album de Resident cette année, ouais. Un bon retour aux sources, un bon mélange à ce qu'ils faisaient il y a 3 ans et tout. Ils ont su faire du bon son, ouais. Avec ce qu'il faut, des bons refrains qu'il faut. Ouais, j'ai bien kiffé celui-là, ouais.
Super, merci beaucoup.
Voilà. Bah, merci.